Merci d'écouter RFI, il est midi à Paris et Marseille, 10h en temps universel.
Arthur Ponchelet.
À la une, le relais de la flamme olympique a commencé à Marseille. Après une cérémonie grandiose hier sur le Vieux-Port, le flambeau est parti de la basilique Notre-Dame de la Garde, porté par l'ancien footballeur Basile Boli, que vous entendrez dès le début de ce journal. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU se dit déçu des déclarations de Joe Biden hier. Le président américain a menacé de suspendre la livraison de certaines armes à l'État hébreu si une offensive d'ampleur était menée à Rafah. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Et puis nous irons en Russie, à Moscou, où une exposition présente des armes occidentales utilisées sur le front ukrainien. Vous l'avez suivi hier toute la journée sur RFI, ça y est, la flamme olympique est arrivée en France. Après une cérémonie grandiose ce mercredi sur le Vieux-Port de Marseille, place désormais au relais de la flamme. 10 000 athlètes, personnalités et amoureux du sport vont se relayer dans 400 villes de France pour porter ce flambeau jusqu'à Paris. Le premier d'entre eux, c'est Basile Boli, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, buteur, champion d'Europe 93. Il s'est élancé de la basilique Notre-Dame de la Garde avant de transmettre la flamme à Colette Cataldo, l'une des plus anciennes supportrices de l'OM. Notre envoyé spécial Christophe Diremzian a rencontré le joueur juste après son relais.
Beaucoup d'émotions et quand on est là-haut, on a l'impression d'être le maître du monde parce que avec une flamme olympique, il y a une ferveur spéciale, il y a un passage de haie sportivement qui est... Voilà, ça fait battre le cœur et c'est fantastique. Là-haut, il y a beaucoup d'émotions, on voit tout Marseille, et puis en même temps, on devient l'élu, quoi, en gros, et c'est pas évident. En même temps, c'est un passage de relais sportif et l'olympisme, c'est exceptionnel.
L'ancien footballeur Basile Boli, premier relayeur de la flamme olympique au micro RFI de Christophe Diremzian. La flamme terminera sa journée au Vélodrome avec Didier Drogba comme tout dernier porteur. Une déclaration difficile à entendre et très décevante, les mots de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU ce matin. En réponse à ceux de Joe Biden un peu plus tôt, le président américain a menacé de cesser la livraison de certaines armes, notamment des obus d'artillerie à l'État hébreu, si et seulement si il menait une offensive d'ampleur à Rafah, cette ville du sud de la bande de Gaza où se trouvent près d'1,5 million de Palestiniens déplacés, fait l'objet de nombreux bombardements depuis plusieurs jours. Après avoir fui les combats dans le nord et s'être réfugiés dans le sud, certains réfugiés doivent désormais fuir de nouveau. Témoignage à Rafah, recueilli depuis Jérusalem par Sami Boukhalifa.
Au début de la guerre, ces images de civils qui quittent le nord de la bande de Gaza ciblés par des frappes. Ils partent par dizaines de milliers, en voiture, en camion, en charrette tirées par des chevaux, chargés de valises et de matelas. Ces mêmes images désormais dans l'autre direction. Le sud de la bande de Gaza, autrefois refuge, devient champ de bataille. Mohamed Vitarafa.
Il y a plein de monde sur la route. Ça crée des embouteillages monstres. Les habitants de Rafah et les déplacés fuient de nouveau. Les bombardements sont ininterrompus. Il y a à la fois des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. Des milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers, ont pris la route.
L'ordre d'évacuation de la partie orientale de Rafah concerne 100 000 personnes, affirme l'armée israélienne. Elles doivent rejoindre la région d'Al-Mawassi, à une quinzaine de kilomètres de là. Mohamed est révolté par cette situation. On nous déplace, on nous bombarde, on nous affame et personne ne réagit, s'insurge le jeune homme.
Tout le monde est à genoux devant le Premier ministre israélien Netanyahou. Il lance son opération à Rafah, même si la communauté internationale s'y oppose. Les chars sont à nos portes et leurs tirs atteignent le centre de Rafah. Il y a quelques minutes, ils ont ciblé la mairie de Rafah. J'ai clairement entendu l'explosion.
Il ne s'agit pour le moment que d'opérations ciblées au sol, précise l'armée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace de lancer une offensive terrestre d'ampleur contre la ville de Rafah. Sami Bourtif à Jérusalem. RFI.
Vous venez de l'entendre, les frappes se poursuivent sur Rafah et dans le même temps, des négociations indirectes ont repris ce mercredi au Caire entre Israël et le Hamas, toujours dans l'optique de parvenir à un compromis et d'éviter l'assaut. En Égypte, c'est une toute autre affaire qui agite l'opinion. Un homme d'affaires israélo-canadien qui vivait dans le pays depuis une douzaine d'années a été tué par balle. C'était ce mardi dans une banlieue d'Alexandrie. Terrorisme ou crime, les réactions sont en tout cas vives dans la vallée du Nil. Au Caire, la correspondance d'Alexandre Bouchanti.
L'homme d'affaires avait créé en 2008 la compagnie OK Group, spécialisée dans le traitement et l'exportation de fruits et légumes surgelés. Une société prospère dont les bénéfices étaient évalués à plusieurs millions d'euros. Mardi, alors qu'il circulait sur une route de campagne dans la banlieue d'Alexandrie, l'homme d'affaires, qui séjournait comme Canadien en Égypte, s'est fait mortellement tirer dessus. L'enquête préliminaire de la police évoque un crime crapuleux lié à un différend financier. Mais un communiqué revendiquant l'assassinat de celui qui est qualifié d'agent du Mossad s'est répandu sur Internet. Les auteurs se revendiquent d'une organisation inconnue, les avant-gardes de la libération, groupe Mohamed Salah, du nom du soldat égyptien qui a tué en juin 3 militaires israéliens à la frontière du Sinaï. Si des internautes applaudissent, d'autres condamnent un crime qui ne peut que faire du mal à l'Égypte. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
L'aéroport international Blaise Diagne de Dakar fermé, annonce du gestionnaire de l'infrastructure. Cette nuit, un avion affrété par la compagnie Air Sénégal, opéré par Transair, a fait une sortie de piste au décollage. 85 personnes étaient à bord de ce vol à destination de Bamako. L'accident a fait une dizaine de blessés. Nouvelle nuit de bombardement en Ukraine. 2 personnes ont été tuées à Nikopol, dans le sud du pays. Les autorités locales accusent l'armée russe qui, elle, dénonce des frappes ukrainiennes dans la région de Belgorod. Elles auraient visé plusieurs immeubles résidentiels et fait 8 blessés. C'est dans ce contexte que la Russie célèbre ce 9 mai, l'anniversaire de la victoire de l'URSS contre l'Allemagne d'Hitler. Dans un discours à la nation, Vladimir Poutine prévient « Les forces nucléaires russes sont toujours en alerte ». Nouvelle escalade verbale alors que le président russe a ordonné récemment des exercices nucléaires tactiques impliquant des troupes stationnées près de l'Ukraine. En marge de ce discours et de cette cérémonie, une exposition attire les moscovites et les touristes à Moscou. On peut y voir des trophées ramenés d'Ukraine, soit du matériel occidental, blindés, drones, lance-roquettes, tous présentés comme ramenés de la guerre en Ukraine. L'occasion de raviver la fibre pro-Poutine des visiteurs, mais aussi pour eux d'évoquer leur inquiétude face à ce conflit qui, souvent, leur semble durer trop longtemps. Reportage à Moscou, Anissa El-Jabri.
L'attraction principale, ce sont les blindés occidentaux et singulièrement les Américains et les Allemands. Très abîmés ou intacts, ils sont signalés avec un drapeau du pays d'origine.
Je voulais voir surtout en premier les tanks, les Abrams, les Léopards. Ce sont ceux dont on a le plus entendu parler.
Comme ce lycéen accompagné de son père dans les allées, on s'agglutine pour écouter les explications des soldats sur les performances du matériel occidental, comme ce Kirghiz, ex-officier de l'armée soviétique.
Je viens de me renseigner sur les capacités des obus tirés. Le soldat m'expliquait ce qui était tiré là-bas sur le champ de bataille. Il y a du matériel du monde entier ici. Le monde entier est contre la Russie et ça montre que la Russie est forte, sait se battre. Bravo aux nôtres, moi je suis pour la Russie.
La Russie qui résiste face à l'OTAN menaçant, tout le monde répète en boucle ce message martelé depuis si longtemps par le pouvoir et les médias d'État. Pourtant, sous l'intensité et l'efficacité de la propagande, perce vite une inquiétude. Toute question sur la durée de la guerre lancée par Vladimir Poutine assombrit la grande majorité des visages.
Je pense que l'opération militaire spéciale va durer un certain temps, malgré la force de la Russie. Je ne crois pas qu'on va s'en sortir rapidement.
L'atmosphère s'envenime. Des pays de l'OTAN parlent d'envoyer des hommes au sol. Ils envoient plus d'armes.
Chacun a une perception différente sur la durée, mais on voudrait tous que ça se termine rapidement.
Dans son discours d'investiture ce mardi, le chef de l'État russe a placé son 5e mandat sous le signe d'une confrontation longue avec l'Occident. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Allez, un mot de sport pour finir ce journal en football. Ça y est, on connaît l'affiche de la finale de la Ligue des Champions le 1er juin prochain à Wembley. Dortmund affrontera le Real Madrid. En demi-finale retour, hier soir, les Madrilènes ont vécu un match complètement fou et renversé le Bayern de Munich au bout du suspense, 2-1. En Ligue Europa, Marseille peut écrire une nouvelle page de son histoire ce soir en se qualifiant pour une 6e finale. Ils affrontent l'Atalanta Bergame ce soir en Italie et pas le choix, ils doivent gagner après le match nul lors de la demi-finale aller. Vous êtes à l'écoute de RFI, les midis passés de 10 minutes. Ici à Paris, restez à l'écoute de la Radio du Monde.